Taïwan donc cette semaine avec ce très long vol en départ d'Amsterdam jusque Taipei, la capitale, plus de 10 000 km. Taïwan qui est régulièrement au cœur de l'actualité pour les tensions qu'elle connaît avec la Chine. Des tensions qui, si elles devaient déboucher sur un conflit armé, bouleverseraient totalement l'équilibre géopolitique mondial. Alors, ce qui peut surprendre le voyageur lorsqu'il se rend à Taïwan, c'est de voler avec un vol China Airlines.
Et oui, lorsqu'on connaît le conflit qui oppose la Chine à Taïwan, on peut se demander pourquoi donc se rend-on à Taïwan avec un vol chinois. En fait, il y a deux Chines. Celle qu'on connaît, la République populaire, le régime communiste. Et puis, il y a Taïwan, dont le nom à l'origine est la République de Chine, mais qui n'est pas reconnue officiellement par l'ONU. La plupart des Taïwanais sont des descendants de Chinois qui se sont réfugiés sur l'île de Taïwan il y a 75 ans. Pas étonnant dès lors que de nombreuses compagnies taïwanaises portent encore aujourd'hui le nom chinois.
En fait, China Airlines est une compagnie taïwanaise et le premier nom de Taïwan, c'est la République de Chine. Quelques éléments d'histoire permettent de mieux comprendre l'origine du conflit.
Nous sommes en 1949. Les révolutionnaires communistes Mao Tse-tung en tête prennent le pouvoir en Chine et chassent le régime en place. 2 millions de Chinois se réfugient sur l'île de Taïwan pour fuir la dictature communiste. Ensemble, ils vont reconstruire un nouveau pays indépendant, comprenez Taïwan, et lutter des décennies durant contre les assauts de la Chine continentale qui n'a eu de cesse de tenter de récupérer l'île. Ans plus tard, c'est donc sur cette île de Taïwan, devenue la première démocratie d'Asie, que nous atterrissons pour tenter de cerner le quotidien de ses habitants qui vivent à l'ombre du grand frère chinois et de la menace d'une invasion militaire. Depuis l'agression russe en Ukraine, nombreux sont ceux qui estiment que Taïwan est le prochain pays où le risque d'une guerre est le plus probable. Première étape de notre immersion, un marché de nuit.
Alors je peux vous dire, avec Renaud, c'est sans doute une des séquences qui va être les plus compliquées à réaliser, car ici, dans ce marché de nuit, comme il en existe des dizaines à Taipei, c'est très difficile de bouger, de se déplacer, il y a énormément de monde. Ces endroits sont ouverts 7 jours sur 7, il y a du monde en permanence sur des centaines et des centaines de mètres.
Premier constat, Taïwan a dû se construire rapidement, très rapidement même, et à marche forcée. Performer économiquement pour résister aux appétits chinois. Un développement économique et technologique fulgurant, c'est le fameux Made in Taiwan. Tout le monde s'y est mis, et ces marchés de nuit en sont l'une des résultantes.
Vous savez, en Europe, on dit souvent certains produits sont Made in Taiwan parce qu'effectivement, dans les années 60, 70, 80, eh bien, il y a eu un développement industriel absolument hallucinant et donc énormément de travailleurs qui venaient vivre ici, dans le centre de Taipei. Et tous ces gens, ces millions de personnes, il fallait les nourrir. Et c'est comme ça que ces dizaines de marchés de nuit se sont développés pour nourrir une population moins riche qui devait manger rapidement, facilement, sur des endroits comme celui-ci.
C'est ainsi qu'a eu lieu le miracle économique taïwanais. Se développer pour résister. Car il y a une chose à laquelle les Taïwanais tiennent plus que tout. Leur démocratie. Le droit de vote, la libre expression, les droits de la presse. Dès lors, le moment des élections est toujours un moment crucial, presque sacré. J'ai rendez-vous avec cette candidate d'un tout jeune parti. Et vous allez voir qu'ici, on ne s'investit pas à moitié dans la campagne électorale. Ainsi, Hu Jintao a son propre avatar en mode manga. Et en termes de merchandising, la candidate médecin de profession a tout prévu. Des sacs, des éventails, des mouchoirs et même des parfums d'ambiance, histoire de sentir la douce odeur de la liberté.
What is this?
Vous aimez?
Oui, oui. On dirait que le peuple taïwanais est très attaché à sa démocratie. Comment l'expliquez-vous?
Les Taïwanais ressentent toujours une sorte d'anxiété à l'approche du jour du scrutin, car il y a toujours le risque qu'un parti politique très proche de la Chine soit élu.
A political party that is very close to China. Yeah, so most people would think that.
Beaucoup de gens pensent que si ce genre de parti était au pouvoir, nous n'aurions plus la même démocratie.
No longer have our democracy.
Alors ici, les candidats sont prêts à tout pour aller à la rencontre des électeurs, même à poursuivre les camions poubelles.
Ah, let's go. On y va tout de suite.
Et voilà, c'est parti. Donc vous allez voir, cette campagne. Ce soir, c'est vraiment une course contre la montre. Alors, on imagine mal les candidats, chez nous, aux législatives, se promener en scooter derrière les camions de poubelle. Mais ici, à Taïwan, on est vraiment prêt à faire le maximum pour cette démocratie auquel ils tiennent tant. Et voilà, on est arrivé. Il s'agit de pas traîner, de courir un peu, bien Renaud. Parce qu'ils sont là, les futurs électeurs sont là, derrière le camion de poubelle.
Et à Taïwan, les poubelles ne traînent pas sur les trottoirs. Tous les citoyens sortent leurs détritus au moment précis du passage de la collecte des déchets.
Vous l'entendez, hein, il y a une musique, il y a deux musiques d'ailleurs, toujours les mêmes, qui résonnent. Le camion passe une heure très précise, c'est vraiment réglé comme une horloge suisse. Et chaque citoyen sait exactement à quel moment il doit venir déposer ses poubelles dans le camion.
Pour les candidats, c'est donc la certitude de rencontrer l'électeur. Auriez-vous le même impact, par exemple, sur les marchés? Pourquoi ne faites-vous pas campagne dans ce genre d'endroit?
Oui, on va aussi sur les marchés nocturnes, mais les gens qui vont au marché ne vivent pas nécessairement à Taipei, et tous ne sont pas forcément des électeurs de notre circonscription.
C'est reparti la course vers les camions de poubelle.
Et c'est ainsi que continue cette étrange course-poursuite. Si les Taïwanais ont toujours pris la politique très au sérieux, l'invasion russe en Ukraine a amplifié encore un peu plus le sentiment d'urgence des citoyens.
Beaucoup de gens craignent que ce qui se passe en Ukraine puisse se produire chez nous. Mais je pense que tant que nous agissons comme une seule nation unie, solidaire, nous n'avons rien à craindre.
There's nothing to be afraid of.
Des heures durant, la valeureuse candidate passe sa soirée aux quatre coins de la ville, d'un endroit de collecte de déchets à l'autre. Et pas une seule fois, un citoyen ne l'a ignorée.
En tant que citoyen, nous avons la responsabilité d'élire la bonne personne, celle qui va assurer la stabilité et la sécurité du pays.
Sans démocratie, nous n'aurions pas de liberté à Taïwan. C'est pourquoi la démocratie est cruciale à mes yeux.
On oublie hein, parfois chez nous, justement, la chance qu'on a de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer librement. Et généralement, c'est lorsqu'on risque de perdre ce genre de privilèges qu'on se rend compte à quel point ils sont importants.
Et à Taïwan, s'il y a bien une communauté qui a conscience du privilège que représente la démocratie et la liberté d'expression, c'est la communauté LGBT. J'ai rendez-vous dans un bar du quartier gay. Ici, des spectacles de drag queens sont organisés chaque soir dans une ambiance bon enfant.
Est-ce que vous profitez bien? Vous vous amusez bien? Avez-vous fait des rencontres? Non? Peut-être tout à l'heure.
Taïwan fait office de modèle en Asie en matière de droits des minorités. Le mariage homosexuel est légal et le pays organise chaque année la plus grande gay pride de tout le continent. Des droits qui sont le fruit d'un long combat de la communauté LGBT taïwanaise. Or, s'il faut du temps pour acquérir des droits, parfois, quelques instants suffisent à les perdre. Dites-moi, craignez-vous que tout ceci puisse s'arrêter si demain vous perdez votre démocratie?
Oui, bien sûr. Je suis très inquiet. Parce que...
Regardez ce qui se passe en Chine.
Si la Chine arrive ici, tout changera exactement comme à Hong Kong. Hong Kong est le parfait exemple.
Comment cela s'est passé pour Hong Kong?
Je vais vous donner un exemple. Il y avait les Jeux Olympiques gays qui devaient s'organiser cette année, comme chaque année à Hong Kong. Eh bien, le gouvernement chinois a essayé de les interdire. Il a fallu trouver une alternative.
En coulisses, les inquiétudes sont les mêmes. Ces jeunes danseuses ont du mal à s'imaginer vivre dans un pays où leurs droits fondamentaux leur seraient enlevés. Et puis, il y a la perspective très concrète d'une guerre sur le sol taïwanais. Une menace qui concerne toute la jeunesse taïwanaise.
Cela ne se voit pas forcément au premier regard, mais en fait, moi, je suis encore à un âge où je suis censé servir sous les drapeaux. Si la guerre arrive, je n'hésiterai pas à défendre mon pays. Bien sûr, cela m'embête un peu parce que je suis si jolie. Ça m'embêterait d'aller au front. Mais c'est quelque chose que je devrais faire, effectivement. Aller défendre ma patrie sous les drapeaux.
C'est une perspective à laquelle je pense. Parce que cette liberté, cette possibilité d'être ce que j'ai envie d'être, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Quel serait le visage de l'île, aujourd'hui si libre et progressiste, si elle devait demain perdre sa souveraineté? Quel serait le sort réservé aux minorités? Il règne à Taïwan une douceur de vivre, une tolérance et surtout une grande liberté d'expression. Nous allons le constater ce soir-là, à l'approche d'un étrange véhicule qui nous propose de monter à bord.
Ni hao.
Bonjour. Hello.
Qui êtes-vous?
Tu Qingyang.
C'est du karaoké?
Oui, oui.
Alors ça, je peux vous dire que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais c'est ça.
Regardez, c'est une chanson belge.
Non.
C'est incroyable.
Décidément, ce pays est plein de surprises. En plein cœur de Taipei, les passagers de ce taxi hors du commun peuvent profiter de leur trajet pour pousser la chansonnette. Évidemment, nous ne pouvions pas résister à la tentation.
Alors le taximan, il insiste pour qu'on chante une chanson belge. Et on propose de faire un incontournable de la musique belge.
Nos interprétations approximatives sont retransmises à plein volume dans les rues de Taipei. Et cela ne semble déranger personne, pas même la police.
Juste là, à notre gauche, un véhicule de police. Et donc c'est dire...
Don't worry,
ne vous inquiétez pas, que nous dit le taximan. Alors c'est dire à quel point, ben voilà, cette activité elle est acceptée dans les rues de Taipei, donc pas d'inquiétude.
Une joie de vivre et un sentiment d'insouciance qui contraste avec l'inquiétude de certains. Dans les rues de Taipei, les drapeaux de l'Ukraine flottent au vent. De nombreuses marques de soutien envers ce peuple ukrainien dont ils se sentent si proches aujourd'hui. L'occasion aussi de rappeler qu'aucune liberté n'est jamais garantie éternellement. Dans un instant... C'est notre quatrième jour sur l'île de Taïwan. Et ce matin-là, nous avons rendez-vous en province, dans un endroit qui, vous allez comprendre pourquoi, doit absolument rester secret. Depuis l'invasion russe en Ukraine, ici à Taïwan, il y a de plus en plus de groupes citoyens qui se créent pour se préparer à la guerre, des formations militaires qui sont parallèles, indépendantes et qui ont lieu, vous allez le voir, dans des endroits vraiment plutôt improbables. C'est dans une cave, au sous-sol d'un immeuble, tout ce qu'il y a de plus commun, que se réunissent chaque week-end des citoyens désireux de se former en cas de conflit.
Ici, les élèves sont mis en condition presque réelle de conflit armé. Nous sommes invités à suivre l'une de ces formations clandestines. Certains de ces apprentis militaires sont étudiants, d'autres banquiers, commerçants ou encore infirmiers. Et tous ont commencé cette formation après l'agression russe en Ukraine. Pour eux, la possibilité d'une invasion chinoise à Taïwan n'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est une probabilité à laquelle ils veulent se préparer.
Bien sûr, j'ai peur. Mais ce qui me fait le plus peur, en fait, ce serait de ne pas être prêt en cas de guerre. Le fait qu'en cas de conflit, je ne sois pas en mesure de me défendre, c'est ça que je crains le plus.
Moi, j'ai d'abord participé à des cours de premier secours. Et je me suis rendu compte que dans ces formations de soins d'urgence, très peu de personnes étaient capables de se servir d'une arme à feu. Donc j'ai commencé à suivre des cours de tir au pistolet pour maîtriser et manipuler le pistolet. Et ça m'a donné envie d'en apprendre plus. C'est vrai que si on se retrouve en situation de conflit, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde qui sera capable de se servir des armes. C'est pour ça que je participe à ce genre de cours.
Il existe des centaines de centres d'entraînement, comme celui-ci, à travers l'île. Lorsque vous avancez pour rechercher une cible, vous devez vous couvrir par binôme et avancer de manière alternée. Chacun à votre tour, vous avancez vers le prochain obstacle, et ainsi de suite, jusqu'à la cible. Des milliers de soldats amateurs formés avec les moyens du bord. Et les autorités n'y voient aucun inconvénient, bien au contraire.
Si on prend l'exemple de l'invasion russe en Ukraine, on a constaté que d'un côté, comme de l'autre du conflit, lorsqu'un soldat est blessé et qu'il faut un réserviste pour le remplacer, généralement, il faut plus de 2 semaines pour former ce civil. Nous pourrions être envoyés au front. Donc on veut déjà partager les connaissances de base pour permettre, en cas de guerre, que les gens qui font partie de la réserve, ou simplement ceux qui se retrouvent à être amenés à aller au front, disposent déjà des connaissances les plus importantes.
À vrai dire, il faut le reconnaître, le combat sur papier semble plutôt inégal. Lorsqu'on sait que l'armée chinoise compte 2 millions d'individus, contre moins de 200 000 à Taïwan, chaque bras forcément est le bienvenu. Mais alors qu'en est-il des citoyens lambda? Cette immense majorité de Taïwanais qui n'ont aucune formation militaire. Là encore, les citoyens s'organisent et là encore, il s'agit d'initiatives mises en place par la société civile. Regardez ce que je tiens en main. En fait, ceci, c'est un document d'information sur comment réagir en cas d'attaque chinoise sur le sol taïwanais. Alors, ça n'a pas été fait par le gouvernement. Ce sont des journalistes taïwanais un peu particuliers qui ont développé ce magazine et ils sont prêts à m'accueillir tout de suite dans leurs locaux.
Hello.
Bonjour.
Bonjour, ravi de vous rencontrer. Nous sommes l'ONG Watch Out. Nous nous concentrons sur les questions politiques et en particulier sur la manière dont la Chine tente d'influencer Taïwan. Et comme vous pouvez le voir, depuis que la Chine menace militairement Taïwan, nous voulons informer les gens sur la manière de se préparer en cas de guerre. Il ne faut pas nécessairement être un soldat pour se battre. Tout le monde peut être amené à devoir se battre.
C'est ainsi qu'une douzaine de journalistes, des lanceurs d'alerte, gardent un œil permanent sur la manière dont la Chine tente d'influencer la société civile, des attaques informatiques ou de la propagande. Mais en plus, la rédaction développe ce livret d'informations qui donne toutes les clés pour réagir en cas d'agression.
Il faut dire que c'est vraiment assez étonnant d'avoir ici des journalistes qui présentent des armes de guerre, des tanks, pour permettre justement au grand public de reconnaître ce qui appartient à l'ennemi chinois, donc, et puis ce qui appartient à l'armée taïwanaise. Et donc on est vraiment dans un travail de vulgarisation, de rendre accessible au grand public ce qu'est aujourd'hui la guerre, la vraie guerre.
Et oui, il s'agirait de ne pas se tromper entre l'uniforme national et celui du camp d'en face. Et puis, il y a toute une série de conseils très concrets dans ce manuel de préparation à la guerre.
Prenons le cas de figure d'une coupure de courant généralisée.
Peut-être y aura-t-il un manque de nourriture et des ressources diverses. Vous devez donc vous préparer à cette éventualité. Vous pouvez préparer des stocks d'urgence avec des réserves d'eau et de nourriture. Et puis en cas d'attaque militaire, quelles sont les sources d'informations auxquelles on peut se fier? Comment éviter les fake news? Et puis, que faire lorsque la sirène d'alarme retentit? Comment se mettre à l'abri? Où trouver ses refuges?
Et en parlant de refuges, les autorités taïwanaises en ont prévu des milliers à travers tout le pays. Des abris anti-aériens présents dans chaque rue et indiqués par des petites affiches sur les façades d'immeubles. Comme ici, au rez-de-chaussée de la rédaction.
Oh. Yes. Somewhat.
Oui, c'est humide.
So. Be careful.
Et attention à la tête.
Voilà, très concrètement, si jamais les alarmes devaient retentir pour indiquer un risque d'attaque aérienne, eh bien les habitants du coin ou les passants dans la rue devraient venir ici suivre les signaux du poster et se réfugier dans cette cave comme il en existe des milliers ici à Taïwan.
Et
comme vous voyez, c'est juste un sous-sol classique avec des citernes d'eau. Il y a en ce moment à Taïwan un peu plus de 100 000 abris anti-aériens comme celui-ci. C'est beaucoup. Mais beaucoup d'abris sont plutôt simples comme celui-ci. Certains sous-sols sont en revanche plus lumineux avec une meilleure circulation d'air. Comme vous le voyez, ce n'est pas le cas de celui-ci. Allons-y.
Après les caves, direction les greniers.